Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA 107.5. Alors, en ce dimanche matin, pour le 22e épisode de l'Étoile Polaire, dans le studio, nous avons Axel, Pierrick, Rémi et Fred.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Salut.
On espère que vous allez bien. Et on va démarrer avec le sommaire de l'émission. Alors, cette semaine, on va commencer comme d'habitude par le ciel ce soir, faire un petit tour de ce qu'on peut observer une fois la nuit tombée. Ensuite, je ferai un petit point d'astro. On va clôturer un peu une série d'émissions que j'avais commencé avec Maxwell là, sur, on va dire, la physique des quantas, les prémices de la mécanique quantique. Cette semaine, on va parler de dualité onde-corpuscule. Après la pause musicale, ce sera Rémi avec sa chronique sur l'astrophoto qui nous parlera des filtres. Et on terminera avec la chronique spatiale de Pierrick, qui cette semaine va nous parler des ovnis.
Tadam.
Vaste débat qu'on commencera à approcher.
Ça envoie du lourd cette semaine.
Cette fois-ci. Alors c'est parti. Axel, es-tu prêt à nous faire partager ta vision du ciel ?
Oui, tout à fait. Ma vision du ciel qui est assez bonne en ce moment. Je trouve qu'on a des belles nuits. Je pense souvent, alors j'ai pas bien le temps d'observer avec mon télescope, mais rien qu'à l'œil nu, je m'amuse à observer, puis à essayer de me repérer avec ce ciel qui est un peu tout à l'envers par rapport au ciel de l'été avec lequel je suis plus familier. Voilà, on a par exemple la Grande Ourse qui est au zénith en ce moment. On a des constellations que je connais très peu au final, en fait, comme le corbeau, comme la coupe, des choses qu'on voit vraiment qu'en ce moment, qui sont au ras de l'horizon.
Et qui ont peu d'étoiles quand même, ces petites.
Oui, aussi, voilà, c'est des petites constellations, bien sûr. On a la constellation de l'Hydre, la plus grande constellation, la plus étendue du ciel, qui est en ce moment au méridien. Donc, je rappelle, le méridien, c'est le moment, c'est la ligne imaginaire entre le nord et le sud. Et donc, les étoiles montent jusqu'au méridien. Puis descendre ensuite au fur et à mesure de la nuit, une fois passé le méridien, se rapproche de l'horizon. Voilà, au niveau des planètes, on a Mars qui se trouve en ce moment dans le taureau, qui est, je crois, pile entre les cornes du taureau. Alors, les cornes du taureau, c'est un peu subjectif aussi, il faut les voir, mais j'avoue que le taureau, c'est pas une constellation très visuel, je trouve, très intuitive.
Le V du taureau.
Alors, le V, mais... voilà, le V exactement, avec Aldébaran, qui est une étoile assez brillante. Mais voilà, donc Mars, qui est par là. Que dire de plus, on a une, pour ceux qui sont équipés d'instruments astronomiques, on a en ce moment une supernova dans Cassiopée, que vous pouvez voir avec un grossissement assez relativement faible, dans le même champ que la nébuleuse de la Bulle, qui est une nébuleuse qui n'est pas très simple à choper, la nébuleuse de la Bulle, mais qui est magnifique, surtout en photo, c'est vrai, mais avec des instruments à partir de 250, 300, on peut commencer à deviner, on la voit jamais vraiment entière comme une bulle, contrairement aux clichés, à ce que permettent les clichés, mais voilà, une belle nébuleuse arrondi, qui forme un joli cercle. Et donc dans le champ, voilà, assez proche de la bulle, vous avez une supernova. Une supernova, c'est une étoile géante qui explose et qui brille pendant quelques jours, quelques semaines des fois.
Mais ça, du coup, c'est récent, elle a explosé
Oui, elle a été repérée il y a deux semaines, je crois, c'est ça. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Rémi.
Dans ces eaux-là, oui, ouais. Il me semble.
Ça doit faire deux semaines qu'elle brille. On ne peut jamais prédire vraiment pendant combien de temps elle va briller. Mais...
Ça dure quelques semaines et après, ouais, elle s'éteint.
C'est ça.
Okay. Elle a explosé il y a quelques temps déjà.
Ah bah oui, il y a des milliers ou millions d'années. Ouais.
Ouais.
Des milliers d'années, je dirais. Je pense. Voilà, que dire de plus, bah, j'ai lu justement que le 30 avril, donc bientôt, là, la semaine prochaine, le 30 avril 1006, de l'année 1006, des observateurs européens, arabes et chinois ont tous noté une étoile brillante inhabituelle, donc on a attribué par la suite à une supernova, avec les connaissances grandissantes. Voilà, qui est donc une supernova dans la constellation du Loup et qui était d'un éclat supérieur à celui de Vénus. À l'époque, Vénus, qui est quand même l'étoile, la planète la plus brillante du ciel. Voilà, supernova. Peut-être on fera un jour une chronique sur la fin des étoiles, la vie des étoiles.
Oui, on fera ça.
Peut-être.
On note. Voilà.
Ok, merci Axel. Alors, je vais passer au point d'astronomie de cette semaine, donc la dualité onde-corpuscule. Alors, ça fait un peu ésotérique comme titre, on va voir un peu ce qui se cache derrière. Donc, cette émission, elle s'inscrit dans la suite des 4 ou 5 émissions précédentes. J'avais commencé, en fait, à l'épisode 15, à parler de Maxwell et donc de la physique qu'il avait élaborée à la fin du 19e, début 20e, enfin fin du 19e. Et donc les ondes, c'est lui qui vraiment a mis en place toute la théorie de l'électromagnétisme avec ses 4 équations. Et puis, petit à petit, on avait déroulé le fil des différents scientifiques qui ont marqué l'époque. Et la semaine dernière, on était arrivé à Einstein. On avait parlé de la relation de Planck-Einstein. Et donc Einstein qui avait travaillé en fait sur l'effet photoélectrique qu'on avait détaillé la dernière fois. Et qu'il avait eu d'ailleurs le prix Nobel pour ça. Et donc pour interpréter l'effet photoélectrique, on avait vu qu'il avait introduit en fait, on va dire, la notion de photon. Il avait dit, mais la lumière, oui, certes, c'est une onde, mais là, si on veut comprendre ce qui se passe, on est obligé d'imaginer que la lumière, c'est des petites boules d'énergie en fait, donc des petites quantités d'énergie. Et pas juste une onde. Alors là, du coup, ça, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se retrouve en fait avec deux modèles qui ont l'air d'être antinomiques, de s'opposer. D'un côté, on a une vision, et expérimentalement ça marche, où on dit la lumière est une onde. Et d'un autre côté, on a aussi une version expérimentale qui dit ben là, la lumière, c'est des corpuscules. Alors comment est-ce que ça peut être à la fois des corpuscules et une onde ?
Excuse-moi, mais un corpuscule, pour moi...
Ben, un corpuscule, c'est un mot un peu flou, hein, mais c'est un petit bout de quelque chose, quoi. Corpuscule, c'est par exemple un photon, donc c'est une petite particule.
D'accord.
Okay. Une particule. Donc dans le cas du photon, c'est une particule d'énergie pure. Mais un électron, c'est une particule. Voilà. Donc un corpuscule ou une particule, c'est un peu pareil.
D'accord. Okay.
Alors. Déjà, on va continuer sur cette histoire d'Einstein. Donc Einstein, quand il parle de l'effet photoélectrique, donc 1905, qui reprend l'hypothèse de Planck, en fait, du photon, même s'il ne l'appelait pas encore comme ça à l'époque. En fait, il y a des gens que ça heurte, sa conception des choses, et il y a des gens qui disent « Non, mais c'est un peu n'importe quoi. Il est bien gentil, Einstein, mais il délire. » Et donc, en particulier, il y a un grand expérimentateur du début du 20e qui s'appelle Millikan, donc qui était très réputé. Donc c'est pas un théoricien, lui, c'est vraiment un expérimentateur. Et il dit, moi, je vais faire une série d'expériences et je vais démonter Einstein, en fait. Je vais lui montrer qu'en fait, ce qu'il dit, c'est faux. Et en fait, en faisant ces expériences, et comme il était très rigoureux, et en fait, il vient à la fin corroborer Einstein. Il vient dire, non, en fait, il a raison. En fait, c'est moi qui me trompe, je fais toutes mes expériences et je ne peux que m'incliner devant la validité de sa théorie. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir un expérimentateur qui veut démontrer la non-validité de quelque chose et qui en arrive à dire, si, en fait, c'est vrai.
Donc, c'est souvent comme ça qu'avance la science, en fait. Souvent, on a une idée, on va essayer de la démolir plutôt que de la mettre en avant.
Souvent, on essaie de la valider quand même. On essaie de trouver dans le modèle une expérience qui découle du modèle et qui montre que le modèle est juste.
Ouais,
c'est plutôt quand même dans ce sens-là que ça marche.
Okay.
C'est assez rare dans l'autre sens, en tout cas. J'en ai rarement entendu parler de vraiment quelqu'un qui annonce clairement « je veux démonter le truc » et qui dit « ah ben non, en fait, c'est vrai
okay. ». Je vois
c'est relativement rare quand même. Et donc voilà, on se retrouve avec cette validation du photon. Et donc on se retrouve un peu embêté quand même parce qu'on se dit, alors c'est quoi la lumière ? Est-ce que c'est une onde ? Alors je rappelle, une onde électromagnétique, donc on imagine comme, comme une, si on fait une analogie avec une onde à la surface de l'eau, sauf que là, ce n'est pas une vibration de l'eau, c'est une vibration du champ électromagnétique, mais c'est le même principe, hein, une sorte d'ondulation, un phénomène ondulatoire, ou bien est-ce que la lumière, c'est des milliards de petites boules d'énergie ? Et ce n'est pas la même chose, en fait. Et en fait, on va réaliser que c'est les deux en même temps. Et c'est là que c'est conceptuellement un petit peu complexe à appréhender. Mais en fait, c'est ce que nous montre l'expérience. C'est que les deux visions sont correctes.
Ah ouais.
Donc pour ça, je vais commencer par parler d'une expérience très célèbre en physique, qui est l'expérience d'interférence des fentes d'Young. Donc Young, lui, c'est 1802. Donc là, on est un siècle avant. Et on est vraiment dans cette idée de la lumière est une onde. Et lui, il fait une expérience où il prend une source de lumière. Et il va, en face de cette source de lumière, il va mettre un écran qui va être percé de deux fentes. Deux fentes étroites. Hein, il faut que ce soit comparable à la longueur d'onde à peu près. Oui. Donc on a quelque chose de vraiment très étroit. Mais bon, il fait ces deux fentes et il place un écran derrière pour voir... ce que ça donne. Et en fait, quand on fait ça, on constate que on va pas avoir un éclairage continu sur l'écran derrière. On va avoir une succession de franges lumineuses et de franges sombres.
On va pas avoir non plus juste deux.
Non.
Deux franges lumineuses.
En fait, on va retrouver exactement ce qu'on fait si on fait la même expérience dans l'eau. C'est-à-dire, on met un agitateur mécanique à un endroit qui va jouer le rôle d'une source de lumière, on va dire, mais qui va créer une onde. On met deux fentes, pareil, et on regarde en fait comment l'eau, enfin, s'il y a des vaguelettes ou pas, des creux, des bosses à la surface de l'eau, on regarde ça derrière, et on trouve exactement la même chose, c'est-à-dire des endroits où les deux ondes vont s'additionner et des endroits où elles vont s'annuler. Et où donc, il n'y a soit donc pas de mouvement dans le cas de l'eau ou pas de lumière dans le cas d'une expérience lumineuse. Donc ça, évidemment, pour décrire ça à la radio, ce n'est pas l'idéal. Donc vous pouvez regarder ça sur un livre ou sur Internet, si vous voulez, les franges d'interférence, vous verrez à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment, en fait, c'est des stries, quoi. Une alternance de lumière et de sombre. Sombre, lumineux, sombre, lumineux. Donc il fait cette expérience. Et donc, en faisant cette comparaison avec des ondes mécaniques, ça, c'est une démonstration que la lumière est une onde. Et pendant plus de 100 ans, et même encore maintenant, on reste avec cette idée, cette expérience, elle est valide, quoi. Ça marche, effectivement, la lumière est une onde.
Mais tu veux dire que la lumière, elle se décompose quand elle passe dans la fente
elle... Non, elle ne se décompose pas.
Enfin, elle ne se décompose pas, mais elle tape dans quelque chose, et ce n'est pas juste un trait lumineux, c'est un pointillé, genre...
Alors, c'est en largeur que ça va s'étendre. C'est-à-dire que si la fente elle est verticale, en fait, la figure d'interférence, elle se déplace en largeur.
Ok.
D'accord. Donc
oui, d'accord. Ouais.
Voilà. Il va y avoir en fait des raies sombres verticales là sur l'écran, des raies sombres, des raies lumineuses, des raies sombres, des raies lumineuses en alternance.
Ok. Ouais.
Donc regardez à quoi ressemble une figure d'interférence. Ça, vous trouverez assez facilement, mais c'est vraiment cette idée.
Expérience des fentes de Young.
Expérience des fentes de Young. Young.
C'est ça.
1802. Donc voilà, on est là-dedans. La lumière est une onde, très bien. Maintenant, on arrive donc au début 1900, et là, on nous dit, non, hypothèse du photon, etc. Et donc, je vais parler de Louis de Broglie. Donc ça s'écrit de Broglie, ça se prononce Louis de Broglie. Donc lui, il a eu le prix Nobel en 1929 pour avoir découvert la nature ondulatoire des électrons. Alors, c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que lui, en 1924, il a cette idée, donc on est après Einstein, hein, il dit, je pense que les particules sont à la fois des ondes et des corpuscules, en fait. Voilà, je pense que lui, c'est ce qu'il dit. Et en fait, il va refaire l'expérience des interférences de Young, mais non pas avec de la lumière, avec des électrons. Donc, au lieu d'envoyer des photons, au lieu d'envoyer de la lumière, on va envoyer des électrons. Donc que jusqu'à présent, on envisageait réellement comme des particules. Hein, un électron, on le voyait comme ça. Et en fait, il va trouver le même résultat. C'est-à-dire qu'il va obtenir derrière une figure d'interférence, comme on l'obtenait pour la lumière. Et donc, il prouve par son expérience, il a quand même eu le prix Nobel pour ça, hein, c'est pas rien, il prouve par son expérience que les électrons sont des ondes. Alors là, on commence à basculer vraiment dans la mécanique quantique. Oui. En fait, hein, De Broglie, c'est un des précurseurs aussi de la mécanique quantique. Donc, d'un coup, on se dit, OK, donc ce qu'on croyait être une onde, en fait, c'est des particules. Et en fait, ce qu'on croyait être une particule, finalement, c'est une onde. Et là, en fait, depuis, on n'a pas tranché. Quoi. Mmh. On ne peut pas trancher.
C'est les deux.
On est obligé. Voilà, en fait.
Il faut travailler avec les deux. Ouais.
En fait, le bilan des expériences de Louis de Broglie, c'est de dire, en fait, toutes les particules sont incorporées dans des ondes, en fait. Ça revient à ça. C'est-à-dire, une particule, au fond, c'est aussi une onde. Alors, ça, c'est assez tentant quand on a ça, d'essayer d'extrapoler ça au macroscopique. On essaie de dire, ben moi je suis un corpuscule, est-ce que je suis aussi une onde ? Il y a pas mal de délire qu'on peut se taper. Ouais. Alors là, on part plutôt dans la science-fiction parce que tout ça ne s'applique qu'à l'échelle microscopique. Ouais. Hein, la mécanique quantique ne s'applique qu'à l'échelle microscopique. Et à partir du moment où on a un grand nombre de particules, en fait, il n'y a plus rien qui marche. Et c'est d'ailleurs un des enjeux énormes de la physique théorique actuelle, d'arriver à unifier la physique macroscopique et la physique microscopique, parce que jusqu'à présent, on n'y arrive pas. Ça, je l'ai déjà mentionné. Mais c'est vrai que là, on arrive quand même sur cette idée qui est quand même assez troublante, quoi. C'est une onde ou c'est un corpuscule ? Eh bien, c'est les deux. Et en fait, on réalise vraiment expérimentalement, hein, ce n'est pas du fantasme, que selon l'expérience, oui, je peux montrer que c'est une onde et oui, je peux montrer que c'est un corpuscule. C'est les deux en même temps. Alors... Je vais continuer un petit peu sur une petite approche de mécanique quantique. C'est-à-dire que cette fois, on va, au lieu de prendre une source lumineuse, on va envoyer photon par photon. Vous voyez ? On envoie un photon par un photon, ou un électron par un électron.
C'est possible, ça ?
Ouais.
OK.
Et on regarde l'impact. Donc toujours le même dispositif avec deux fentes, okay. Toujours le même dispositif. Et en fait, on regarde un par un les impacts. Et qu'est-ce qu'on voit en fait ? C'est que on retrouve, en fait, petit à petit, les impacts vont dessiner la figure d'interférence. Impact par impact, on va redessiner une figure d'interférence.
Ah ouais.
Okay. Le cumul de centaines d'impacts.
Ouais. Va redonner la même figure qu'on observe si on envoie tout d'un coup une source lumineuse importante. Donc ça aussi, c'est quand même assez fascinant. Quoi. De retrouver, comme si vraiment, comme les impressionnistes, quoi, une petite touche par petite touche, en fait, on retrouve la même chose.
Ça veut dire que c'est à la fois l'onde et à la fois la particule, comme tu dis. Il faut les deux pour arriver.
C'est les deux. Et là où c'est intéressant, c'est que ça s'applique non seulement à la lumière, mais aussi en fait à la matière, c'est-à-dire aux électrons. Et en fait, ça s'applique à tout. Un proton, ouais. Un neutron, tout ce que vous voulez. En fait, tout ça, c'est à la fois des particules et des ondes. Et voilà, et tout ça, en fait, une fois qu'on en arrive là, oui.
J'ai une question qui est peut-être pas bonne, pas valide. Et dans la dernière expérience que tu parles, si on envoie des électrons un par un, on les envoie dans quelle direction ? Est-ce que c'est ciblé ? Est-ce que c'est une mauvaise question, peut-être ?
Non, c'est une bonne question. En fait, on envoie entre les deux fentes ? En fait, on ne vise pas.
Okay.
On envoie une source, c'est une source sphérique en fait. C'est comme si c'était un point qui émettait. Quoi. On envoie dans toutes les directions.
Okay. Comme une sphère. Quoi,
Parce que si tu envoies tout droit, de toute façon, tu tombes sur le mur et il ne se passe rien.
C'est ça, oui.
Donc tu envoies plus ou moins dans toutes les directions en fait.
Ouais. Ok. Merci.
Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire pour cette semaine. C'est matière à réflexion. En tout cas, c'est vrai que c'est très difficile d'envisager réellement ça, de le visualiser.
De l'imaginer.
De l'imaginer, de dire, alors c'est quoi ?
De conceptualiser, c'est dur.
On n'a pas de concept équivalent, en fait, dans le monde macroscopique pour se raccrocher ou pour donner un exemple. Donc, on ne peut pas. Mais l'expérience le valide. Donc, c'est ce qu'on a appelé la dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire qu'on est à la fois une onde. La matière ou le rayonnement, c'est à la fois une onde et à la fois une particule.
En fait, toute la matière, ce que tu dis là, tout est comme ça en fait. Tout fonctionne sur
sur ce principe-là. Et du coup, ça va nous amener donc à la mécanique quantique à proprement parler, où en fait les particules ne sont plus décrites comme des points.
Ouais.
mais on les décrit comme des fonctions d'onde, on appelle ça. C'est-à-dire que c'est une onde qui a la probabilité, avec en plus une notion probabiliste, c'est-à-dire qu'en mécanique quantique, on ne peut pas déterminer avec précision la position d'une particule. C'est impossible. En fait, elle a des probabilités d'être plus ou moins réparties dans une zone de l'espace. Donc là aussi, c'est encore un autre pas conceptuel. Donc sur lequel je reviendrai dans des émissions futures. Là, je vais m'arrêter là pour cette série d'émissions donc, qui ont fait un peu en fait, le pont entre on va dire, la physique classique jusqu'à la fin du 19e et la physique contemporaine avec la mécanique quantique. Il y a aussi la relativité générale bon, qu'on avait rapidement abordée dans une des premiers épisodes de l'étoile polaire. Voilà les deux grandes théories du 20e siècle. Toutes les deux corroborées par l'expérience, hein, j'insiste, c'est pas juste des théories comme ça fumeuses sur le papier. Même la relativité générale a eu des confirmations expérimentales, on pourra en reparler. Voilà, je vais m'arrêter là et je pense que dans les émissions prochaines, je parlerai un peu plus de planétologie pour faire une pause sur la physique théorique. On va écouter un petit morceau de musique. Cette semaine, c'est un morceau de Jimi Hendrix qui s'appelle Drifting.
Sea of forgotten
retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. On va reprendre le cours de ce 22e épisode avec Rémi qui va cette semaine consacrer sa rubrique sur l'astrophoto aux filtres que l'on peut utiliser pour Rémi.
Alors les filtres, oui. Pour imager, hein, principalement, on va voir un petit peu les types de filtres qui existent et l'intérêt qui vont porter aux images.
Alors excuse-moi, juste pour préciser un peu les choses pour ceux qui n'ont jamais fait d'astrophoto, ces filtres, physiquement, ils ressemblent à quoi ?
Alors physiquement, c'est des lames de verre, très fins, hein, en dessous d'un millimètre généralement. Il y a plusieurs liaisons possibles avec soit le télescope, soit l'appareil photo. Donc généralement, sur un porte-oculaire, il y a deux tailles. Il y a les 1 pouce 25 qui correspondent à 31 mm 75 ou 2 pouces qui sont 50 mm 8. Et donc c'est des lames de verre circulaires avec un filetage d'un côté qui est un pas standard.
Donc ça se met sur le porte-oculaire, ce n'est pas des filtres qui sont pleine ouverture.
Alors après, il y a plusieurs...
À l'entrée du télescope.
Ah oui.
Alors il y a des... Par exemple, en solaire, c'est un filtre qu'on met sur le télescope qui fait le diamètre de l'instrument. Et après, il y a des filtres... Les filtres généralement utilisés sont en 2 pouces ou en 1 pouce 25. En visuel, on utilise des filtres qui se visent directement sur les oculaires.
Ouais, c'est ça.
Donc on passe d'un oculaire à un autre. En photo, l'idéal, c'est d'avoir un filtre au plus proche du capteur pour limiter tous les défauts que ça peut générer aussi optiquement. Donc il y a ce qu'on appelle des filtres clip, c'est-à-dire qui ont une forme particulière qui s'insère directement dans le boîtier de l'appareil photo, quoi. Et donc après, on met la bague d'adaptation qui se connecte au télescope. Donc voilà, physiquement, c'est des petites lames de verre qui sont traitées de manière ultra précise parce que du coup, ça consiste en premier lieu à trier la lumière, quoi. Donc comme t'en parlais, Fred, l'émission précédente, lumière en tant qu'onde électromagnétique et tout ce que ça implique, c'est-à-dire qu'on va avoir des filtres qui vont couper certaines raies de lumière, isoler certaines raies de lumière. Par exemple, les filtres les plus courants, ce sont les filtres contre la pollution lumineuse. Quand on est près d'une ville ou quoi, on subit la pollution lumineuse, qui n'est autre que une émission de lumière dans les couleurs orange-jaune qui correspond au lampadaire à sodium, en fait, simplement. Il commence à y avoir des filtres qui luttent contre la pollution lumineuse des éclairages à LED, mais c'est
plus compliqué parce que les LED diffusent dans tout le spectre, presque, plus dans le bleu.
C'est vachement plus difficile à isoler. Ouais.
C'est pour ça qu'on appelle les mairies à éteindre les lampes la nuit.
Exactement.
C'est ça, c'est une démarche.
C'est aussi pour ça. Il y a aussi d'autres considérations écologiques, économiques.
Il y a le nucléaire aussi. Ouais. Enfin voilà, du coup, ça m'amène à reparler du spectre de lumière visible, donc qui s'étend comme un petit peu comme le son entre les graves et les aigus. On a d'un côté le violet, on passe par le bleu, le vert, le jaune, le orange, pour finir dans les rouges. Donc ça, c'est ce que l'œil humain peut voir de la lumière visible, de ces ondes électromagnétiques-là. Sachant que avant le violet, il y a ce qu'on appelle les ultraviolets. Après le rouge, il y a ce qu'on appelle les infrarouges. Et donc, ce sont des raies de lumière qui sont invisibles à l'œil nu. Enfin, l'œil humain n'a pas la capacité de voir ça. Certains animaux peuvent avoir des facultés visuelles un peu plus développées. Mais par contre, nous, en astrophoto, on peut en quelque sorte débrider le capteur de l'appareil, et notamment pour pousser un petit peu la sensibilité dans les rouges, parce que c'est là, dans les rouges, que se trouve l'arrêt de lumière d'hydrogène alpha, ce qui est le plus répandu, grosso merdo, dans l'espace. Même en observation solaire, on observe avec des lunettes H alpha. beaucoup de nébuleuses, qu'elles soient en émission, en réflexion, teintent vers le rouge, quoi. C'est, dans la Voie lactée, on voit assez facilement dans une photo grand champ, il y a beaucoup de taches rouges qui correspondent à des objets qui émettent en hydrogène.
L'hydrogène, c'est l'élément prédominant de l'univers. Je crois que c'est 90% de l'univers qui est composé d'hydrogène. Donc c'est sûr que c'est ce qu'on observe le plus.
Qui compose les étoiles, les géantes gazeuses.
C'est vraiment la base. Bah, c'est l'élément chimique le plus simple. C'est, c'est juste un proton avec un électron autour. On ne peut pas faire plus simple. C'est le premier élément de la classification périodique et c'est le premier qui a existé... En tout cas, dans le modèle du Big Bang, quoi. Une fois qu'on est passé d'un univers d'énergie pure à un univers de matière, ben ça a commencé par l'hydrogène.
Voilà, donc l'hydrogène alpha, c'est, par exemple, ça a une longueur d'onde de 656 nanomètres. C'est donné. L'hydrogène alpha, elle est située là. Le spectre lumineux, il s'étend de à peu près 400 à 700 nanomètres. L'œil, pour donner un petit repère, il peut être sensible à partir de 495 nanomètres jusqu'à 555. Donc l'hydrogène alpha, l'œil humain, il ne peut pas le voir. Il est très très peu sensible. Voilà, donc chaque matière qu'on peut retrouver dans l'espace, qui constitue la nature des objets, est classifiée par une longueur d'onde, quoi, qui est avec un numéro en nanomètres. Un nanomètre, c'est 10 puissance moins 10 millimètres. Donc c'est très fin, ça peut varier très vite.
Du milliardième de mètre.
Oui, dans ces eaux-là. Donc voilà, les filtres vont nous aider en astrophoto à isoler des raies de lumière pour pouvoir faire ressortir au maximum ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que quand on prend une photo sans filtre, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses dans l'image, quoi. Que ce soit le fond de ciel noir, mais pas tout à fait, que ce soit les étoiles qui prennent beaucoup de place, qui prennent beaucoup de volume d'intensité. Et nous, ce qu'on veut, c'est soit isoler des gaz, soit isoler un amas ou une galaxie ou quoi. Donc, pour ça, l'utilisation de filtres est grandement recommandée, quoi, pour gagner en contraste. Nous, ce qui va nous intéresser en astrophoto, c'est d'éclairer tout ce qui est lumineux et d'assombrir tout ce qui est sombre.
Tu veux dire que tu utilises plusieurs filtres en même temps ou...
Alors non, en fait, ça dépend. Il y a deux catégories de capteurs. Il y a les capteurs monochromes et les capteurs couleurs. Donc, on avait déjà un petit peu parlé dans une rubrique précédente. Les capteurs couleurs fonctionnent sur une base de 4 pixels. Il faut 4 pixels pour en faire un. C'est-à-dire qu'il y a un pixel rouge, un pixel bleu et deux pixels verts. Il fallait en choisir un qui est doublé, c'était le vert. Sauf que le vert, c'est ce qu'on ne trouve pas comme couleur dans l'espace. C'est une couleur qui n'existe pas, il n'y en a que sur la Terre, du vert.
Il y a l'émeraude.
Oui, c'est ce que je pensais, une nébuleuse de l'émeraude.
On en voit un petit peu dans la nébuleuse de crabe aussi, M1. Ouais. Mais après, on va voir que les couleurs qu'on voit sur les images ne sont pas forcément les couleurs les plus fidèles. Ça va être ce qu'on appelle une composition d'image. Donc, en capteur monochrome, par exemple, si on veut imager avec un capteur monochrome, on est déjà obligé d'utiliser trois filtres différents. Un filtre rouge, un filtre vert, un filtre bleu, pour les trois couleurs primaires. Et après, on les mélange à leur intensité qui est propre à chacun. Et là, ça nous donne une image couleur. Donc en monochrome, on est déjà obligé d'utiliser ça. Et on peut aussi utiliser un filtre de luminance. C'est-à-dire que ça nous donne une image noir et blanc, ça nous donne une intensité de lumière et ça pousse les contrastes. Ça révèle la luminosité de l'objet qu'on photographie. Et en capteur couleur, on va travailler plutôt avec des filtres... Donc ce qu'on appelle des filtres CLS, des filtres contre la pollution lumineuse. Ou alors après, si on veut pousser encore les contrastes, on va travailler avec des filtres UHC, Ultra High Contrast. Là, ça va vraiment séparer de manière un peu arbitraire les raies de lumière. Et après, ce qui nous intéresse le plus et ce qui prend aussi le plus de temps, c'est d'imager avec des filtres à bande étroite. C'est-à-dire que on va chercher à capturer cette fameuse raie de lumière hydrogène alpha ou la raie de lumière oxygène 3 fois ionisé, soufre 2 fois ionisé. Donc, à partir de là, ça va nous permettre d'enrichir une photo RVB, une photo en couleur. On va se servir de cette couche qu'on a prise en bande étroite comme luminance. Et là, on va pouvoir voir l'image qui s'anoblit et qui gagne vraiment en contraste et en coloration propre, quoi. Sur une nébuleuse d'hydrogène, si on prend une photo RVB, bon, on voit, il y a le rouge, ça fonctionne, il y a du contraste. Mais quand on y rajoute une couche luminance avec un filtre à bande étroite, à hydrogène par exemple, là la photo elle prend un gros coup de boost, quoi. Elle prend vraiment, vraiment du volume. On voit dans l'histogramme de la photo d'ailleurs que ça s'élargit. Il y a beaucoup d'informations qui s'ajoutent à ça. Et donc à partir de là, on peut commencer à imaginer faire des compositions d'images. Donc ça m'amène à parler de toutes les photos qu'on voit apparaître du télescope Hubble. Donc, qui a donné carrément un nom à une palette de couleurs, la palette Hubble. C'est ce qu'on appelle des photos en SHO. Donc, c'est avec des photos où le soufre prend la place du rouge, l'hydrogène prend la place du vert et l'oxygène prend la place du bleu. Donc, on se retrouve avec des photos qui sont très belles, qui tapent à l'œil parce que on se retrouve avec du vert, du bleu, du jaune, du orange. Il y a beaucoup de contraste dans la colorimétrie, quoi. La palette Hubble. Le SHO, c'est un truc qui est très très à la mode et qui se pratique surtout avec des caméras monochromes. Donc, concrètement, quand on fait de la monochromie, on a ce qu'on appelle une roue à filtre entre le capteur et l'instrument optique. Et donc, c'est une roue où il y a 5-7 filtres qui tournent. On prend une heure de pause, mettons, avec un filtre. Et puis après, on change de filtre. Et donc, c'est assez fastidieux parce qu'il faut beaucoup de temps pour chaque couche. Donc, après, c'est dans ces images-là qu'on retrouve généralement les meilleures qualités. Et donc, très récemment, il y a eu aussi des nouveaux types de filtres qui sont sortis pour les capteurs couleurs, justement. Ce qu'on appelle des filtres bi-band. C'est-à-dire que quand on veut isoler la raie d'hydrogène alpha, qui est placé dans les rouges, sur un capteur couleur, ça concerne que les pixels rouges. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un pixel sur 4 qui travaille. Alors ils ont créé des filtres qui permettent d'alimenter ces pixels rouges en hydrogène alpha et qui permettent d'alimenter les pixels verts et bleus en oxygène 3 fois ionisé. Et du coup, on peut faire une composition assez sympa qui s'appelle du HOO, c'est hydrogène pour le rouge, oxygène pour le vert, oxygène pour le bleu. Voilà. Et donc, on fait d'une pierre deux coups avec un capteur couleur qui est nettement moins performant pour les filtres à bande étroite. Voilà ce qu'on peut un peu dire sur ce type de filtre. Et après, c'est libre à chacun, quoi, d'y mettre le goût qu'on veut dans la composition, dans l'intensité qu'on propose dans chaque ray de lumière. C'est une sorte de mix. De mix qui est proposé. Et donc dans le podcast de cette émission, si on veut mettre une photo que j'ai fait récemment, la nébuleuse de la Méduse, c'est une photo qui a une couche de luminance en hydrogène alpha. C'est une photo RVB, donc couleur, et qui a une couche luminance hydrogène alpha, et donc là on gagne beaucoup en contraste.
C'est celle qu'on mettra pour illustrer le podcast de cet épisode, comme ça vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais. Moi, tout ça, ce que tu racontes, ça me fait aussi penser, des fois ils sortent par exemple des photos du ciel, mais grand champ, mais par exemple en rayon X. Et d'un coup, ça n'a plus rien à voir en fait. Vraiment, c'est complètement différent, le ciel en X, le ciel en onde radio aussi. Bon, en radio, c'est vaste, il y a pas mal de fréquences différentes, mais ça n'a rien à voir en fait avec l'aspect du ciel dans le visible. Et vous pouvez très bien avoir des objets qui émettent beaucoup de lumière visible, qui ont l'air d'être très brillants, et dès que vous les passez en radio ou en ultraviolet, où il n'y a plus rien, et inversement. Les objets qui deviennent très visibles en ultraviolet, qui ne le sont pas dans l'optique. Et en fait, ce que nous, on va appeler le ciel, bah, en fait, c'est vraiment qu'une partie de la réalité de ce qu'il est, en fait. Puisque, comme on l'a dit, l'œil humain, en fait, il n'est sensible qu'à une toute petite partie du spectre électromagnétique. Et donc, on a accès qu'à une toute petite partie, quelque part, de la réalité du ciel, quoi. Et c'est vrai que quand on voit ces photos, et même sur un objet précis, selon la longueur d'onde dans laquelle vous photographiez, il n'a pas du tout le même aspect. En fait.
Oui, c'est sûr. Et la NASA, notamment, étudie un peu chaque objet. Elle possède 3 télescopes. Il y en a un, je ne me souviens plus le nom, mais donc il y a Hubble qui image dans la lumière visible. Il y a Chandra qui image dans les rayons X. Et il y en a un autre qui image dans les ondes radio. Mmh. Du coup, ça permet d'avoir le maximum d'informations, une diversité d'informations sur la constitution de l'objet.
Les gamma aussi.
Voilà, les gamma aussi.
Et du coup, il y a des éléments qui apparaissent dans l'univers qu'on n'avait pas vu avant. Si on met un filtre et qu'on regarde un endroit... Dans le ciel et l'espace, là, du mois dernier, là, il y a pas mal d'amateurs. Il y a un groupe d'amateurs qui découvrent des nébuleuses. Je sais pas comment ils s'y prennent, mais sûrement.
Oui, il y a eu des objets qui ont été trouvés récemment par des amateurs, ouais. Sur des poses longues. C'est sûr, c'est sur des poses longues et puis surtout sur des filtres à bandes très étroites, quoi, qui sélectionnent.
Qui font apparaître des nouvelles choses.
Ouais. Des objets inconnus encore et assez surprenants. Et donc après, c'est un dosage pour faire apparaître quoi, l'objet en lui-même. C'est, à un certain niveau, ça peut s'apparenter à de la recherche quoi, quand on découvre des nouveaux objets, des nouvelles
bien sûr,
compositions.
Plus la technologie avance et plus les filtres sont fins, précis.
Ouais.
Et
les capteurs aussi.
Très performants, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est des filtres, notamment le filtre UHC ou les filtres O3, c'est des filtres qui sont couramment utilisés en visuel aussi et qui offrent un confort de vision qui est assez étonnant, quoi. C'est quand même balèze la différence que ça fait à l'œil. Nous, on est quand même assez sensible. Il y a la qualité des oculaires, des verres et tout, puis c'est sûr, les miroirs, tout ça, mais il y a ce tri de lumière qui peut être fait avec un petit filtre ajouté supplémentaire.
Ah ouais, parce qu'on a l'œil sensible à l'état polaire.
Ouais, moi, sur mon télescope, en visuel, il y a une différence flagrante, énorme même, entre sur la dentelle du cygne, par exemple, je pensais aux dentelles du cygne, avec le télescope à nu et avec le filtre O3,
ouais.
Tout de suite, c'est faut sortir les rébones, quoi. Presque.
Ouais, ouais. Non, c'est sûr, et donc c'est vrai qu'il y a aussi des filtres, donc les filtres lunaires, qui ont, qui ont pour but surtout de diminuer la quantité de lumière. C'est un peu comme si on sortait les rébones.
Ouais, sinon, ça éblouit quand même la Lune.
Ouais, ça éblouit beaucoup.
Une fois passé le premier quartier.
Ouais. Ouais. Et après, il y a tout ce qui est filtre solaire. Et donc là, on diminue, on garde une infime partie de la lumière. C'est une histoire de 1/10 millième de la quantité de lumière. Et après, en photo, ça peut passer à 1/1000. Mais observation solaire, faire très attention. Mais c'est possible avec des filtres, des fils spécifiques ou masques de soudure ou choses comme ça. Ouais. C'est un peu de cet ordre-là. Voilà ce qu'on peut dire sur les filtres.
Merci.
Mais merci Rémi.
Là, je par curiosité, ton cliché donc de la nébuleuse de la Méduse qui illustrera le podcast, c'est combien de temps de pause?
Ça, c'est 4 heures de temps de pause. C'est une cinquantaine de pauses de 5 minutes.
Okay.
Elle est hyper contrastée, hein, la photo.
Ouais, dans cet écran. Là,
non, mais c'est beau, quoi. Il y a vraiment du volume.
Et ensuite, quelques heures de traitement.
Ouais, après, un empilement, un traitement. Il y a au moins autant,
ouais. Oui.
Mais avec les nuits qu'on a eues récemment, tout ça, c'était pas assez évident. Et c'est un objet qui quand la nuit apparaît, est déjà passé le méridien. Normalement, c'est un objet qui s'image en...
C'est dans quelle constellation?
Dans les Gémeaux.
Okay. Ah, oui.
Les Gémeaux, c'est assez haut quand même. Ouais, c'est un bel objet, donc fait avec un filtre biband en couleur qui laisse passer hydrogène alpha pour les rouges et oxygène trifoïonisé pour les verts et les bleus. Donc ça nous permet aussi d'avoir des couleurs d'étoiles, des nuances. Ouais, c'est assez performant.
Ok, et bien, merci pour toutes ces précisions. On vous engage à regarder sur le podcast les différentes photos que Rémi a faites. Elles sont belles. On va passer à la dernière rubrique de cette émission. Ça va être la chronique spatiale de Pierrick.
Eh oui, et si vous voulez vous parler des ovnis.
Ah.
Ouais, c'est fun quand même, c'est cool, non? Donc OVNI, donc c'est l'acronyme de Objet Volant Non Identifié. Ou alors, souvent on entend parler de ufologie, ça vient de l'anglais UFO, c'est Unidentified Flying Object, donc Objet Volant Non Identifié. Donc on parle de quoi? On parle d'extraterrestres, de soucoupes volantes, de soucoupistes, de mecs qui, ouais, qui pensent aux soucoupes. Et donc, c'est beaucoup d'observations, de témoignages, de gens, voire d'enlèvements, voire même de rencontres. Hein. Donc, je ne vais pas dire si c'est vrai ou pas dans cette émission. Hein. Je vais juste parler de ce que les gens disent et de... En fait, que l'on croit ou pas aux ovnis, on peut s'interroger sur le phénomène et essayer d'en parler et de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a... Il y a plein de témoignages de gens de bonne foi, de tout milieu, qui voient des choses particulières, qui demandent certification. Ou... Voilà, il n'y a pas que des hallucinations. Il y a aussi, je pense qu'on a, je sais pas si on a tous été témoins de quelque chose de bizarre une fois dans le ciel qu'on a vu à un moment donné de notre vie. Et donc voilà, certaines choses sont troublantes et... Sur la masse des témoignages qu'il y a, on estime qu'il y a à peu près 20% des observations qui sont troublantes, déroutantes, et qui demandent à plus d'enquêtes. Donc je vais parler de la naissance moderne du phénomène OVNI. Je ne vais pas remonter aux premières images d'OVNI, peut-être qu'on a dans l'Antiquité ou même au Moyen-Âge, enfin... Voilà, je vais rester dans le moderne. Et donc, ça a commencé à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait, comme il y a eu beaucoup de vols d'avions pour la guerre, et ben, il y a eu un armement de pilotes qui ont vu des choses. Il y a eu plus de 2000 témoignages de pilotes qui voyaient des Foo Fighters, des combattants fantômes, des choses bizarres. Et donc ça a commencé un peu à alimenter un fond de rumeurs. Et ce qui a vraiment déclenché le phénomène OVNI, c'est Kenneth Arnold. Donc là, on est en 1947. Et donc c'est un pilote et homme d'affaires qui fait une interview dans une radio locale aux États-Unis où il parle de son observation de 9 objets en forme de galets plats très brillant, très rapide, qui mesurait entre 12 et 15 mètres et qui volerait à 1800 km/h. Et ces objets volaient en sautillant comme une soucoupe qui ricochait sur l'eau. Et c'est de là où est né le terme soucoupe volante, les flying saucers. C'est ça vient de là, de la description de Kenneth Arnold en 1947.
Ce qui est marrant, c'est qu'il a utilisé ce mot pas pour décrire l'objet, mais pour décrire, pour trouver une analogie pour leur mode de déplacement, quoi, leur façon de se déplacer. Et on a gardé le.
Et oui, les journalistes ont gardé. Ouais, ouais.
Alors que lui, c'était pas du tout ça. Enfin, il parle de galets.
Après, un disque dans le ciel, il y en a plein. Enfin, tu vois, la Lune, c'est un disque. Le Soleil, c'est.
Ah oui, mais alors, ça dépend si tu le vois par la tranche ou. Oui.
C'est vrai. En tout cas, voilà.
Ok.
Effectivement, les journalistes ont repris ça et c'est de là que c'est devenu hyper populaire, ça s'est médiatisé à fond. Et quelque part, ça a un peu libéré la parole. Et là, il y a eu encore plus de témoignages, de choses bizarres. Et là, j'ai vu ça, etc. Et donc, on en arrive à Roswell, en 1947. Donc, Roswell, c'est un incontournable de l'OVNI. Hein. qui fait encore parler de lui encore maintenant. Et donc si je vous résume l'histoire, donc en 1947, des disques volants, des débris ont été retrouvés à Roswell. Et l'armée dit on a trouvé des disques volants et on ne sait pas ce que c'est. Puis peu de temps après, elle se rétracte et elle dit non, mais en fait c'était des débris de ballons-sondes. Donc là, il ne se passe pas grand-chose, ça tombe un peu dans l'oubli. Et puis en 1978, il y a un major de l'armée, le major Jesse Marcel, qui a participé à la récupération des objets en 1947, qui lui affirme que ce n'est pas un ballon sonde, mais que c'était fait dans un métal inconnu, avec des écritures inconnues sur les échantillons trouvés. Et donc là, après,
c'était
voilà.
Pas du russe.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Peut-être.
C'est un truc en bois russe. Ils se disent, c'est quoi ce métal bizarre?
En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque, l'armée fait beaucoup d'expérimentations avec des ballons sondes. Ils essayaient d'envoyer des ballons sondes pour aller espionner l'URSS ou autre contrée. Et du coup, ils faisaient des trucs top secret que peu de gens étaient au courant. Et que même des militaires plus classiques, ils trouvaient des choses. Et en fait, c'était soit l'armée qui faisait ces trucs top secret et qui ne savait pas. Donc voilà, il y a un peu un imbroglio spécial à ce moment-là. En tout cas, ce major, voilà, il balance ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tous les documents de cette base, entre 45 et 49, et tous les messages radio de cette période, sont détruits. Tout ça a été supprimé. Et on n'a pas d'informations sur qui a fait ça, et pourquoi, et comment... Voilà, ça rajoute encore à la polémique et à... Est-ce que c'était un ballon sonde? Est-ce que c'était autre chose? Et donc, s'ensuit tout un... L'armée a même demandé ce qu'il y a une enquête interne, etc., etc. Bon, ça a statué que c'était rien, que c'était que des ballons sondes, que c'était un projet top secret, etc. Bon, voilà, il y a toujours des gens pour alimenter la rumeur, qui peut-être est vraie, hein, j'en sais rien. Je ne suis pas là pour trancher quoi que ce soit.
Toute une petite collusion quand même entre les ovnis et on va dire une galaxie complotiste qui nourrit le truc. Il y a aussi,
bien sûr,
c'est clair hein, qu'il y a tout, qu'on est vraiment en droit de se poser la question, qu'il y a des choses qui sont étonnantes, etc. Il y a aussi tout un tas de gens qui racontent réellement n'importe quoi sur le sujet.
Bien sûr.
Sur Roswell, ça va plus loin que ça. Enfin, je sais pas si il y a aussi l'idée d'avoir carrément retrouvé le corps de l'extraterrestre.
Oui, j'ai même pas parlé de ça. Mais oui,
parce qu'il y a quand même tout ça, que derrière on aurait retrouvé le corps et que c'était triangulaire, là, qu'il y aurait une autopsie, nananinana. En fait, bon, on n'en sait strictement rien, mais la légende, en tout cas, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Elle va plus loin que juste l'observation. Elle dit que carrément, il s'est écrasé et que le gouvernement a récupéré le corps et qu'il est mort et que voilà. Bon, voilà, c'est... La légende, en tout cas, c'est ça.
C'est ça. C'est vrai, c'est ça. Après, je n'ai pas cherché plus loin parce que tu peux partir très loin sur Internet.
Tu peux pas trouver d'informations fiables.
En fait, tu ne sauras jamais. Tu peux pas. Voilà, c'est...
Alors, tu peux regarder les X-Files du début à la fin. Voilà. On ne saura pas plus, en fait.
Et donc, tout ça, c'est très lié à la guerre, notamment à la guerre froide, en fait, parce que c'est tout ce qui est observation inconnue, nouvelle, qu'on ne sait pas ce que c'est, ben, c'est peut-être, en fait, un ennemi qui vient observer la nation, et du coup, c'est une menace, et du coup, il faut faire attention. Et, en fait, tous les témoignages sont recueillis parce que ça peut être un début de preuve que l'ennemi a une technologie supérieure à la nôtre et qu'on ne peut pas le détecter, etc. Enfin voilà, c'est toujours... Là-dessus, c'est les ailes volantes, les espèces d'avions noirs en V, là, indétectables américains. Je ne sais pas si vous voyez quoi je parle.
Furtif,
là. Ouais, truc furtif.
Blackbird,
Ouais. Et du coup, voilà, ça fait penser à ça. Et sûrement que les Russes ont un truc similaire avec... Voilà, c'est un peu la psychose de l'époque, savoir...
Il y a aussi, je pense, pendant que tu parles du lien avec la guerre,
oui.
Les bombes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, et les essais avant aussi, il y a cette idée des fois qui sort que les extraterrestres, une sorte de communauté galactique, s'intéressent à une planète à partir du moment où une civilisation utilise le nucléaire. Et du coup, ils viennent voir si on l'utilise bien, mal, si on arrête, s'ils doivent intervenir. J'ai déjà entendu ça, en tout cas. Voilà. Okay. C'est un peu D'un coup, ça clignote sur l'écran. Ah, ici, ils utilisent le nucléaire. Allez, on va voir.
On va
du
voir
coup,
ce
c'est
qui
pour ça qu'ils arrivent à partir de 47.
Ah oui, ça explique tout. Voilà. Ok.
Donc, c'est grâce aux Américains si voilà. on a des extraterrestres. Ah, oh, c'est bon.
Et donc, du coup, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages qui, de voir des phénomènes OVNI. Et donc, tout ça, bah, c'est, ça peut être des phénomènes atmosphériques avec des inversions de température, il y a plein de choses qui peuvent, des nuages qui ressemblent vaguement à une soucoupe. Enfin, il y a énormément de choses dans le ciel qui peut faire croire que c'est un ovni et qu'en fait c'est un truc inhabituel, mais pas fou, quoi, pas un ovni. Il y a aussi beaucoup de. Des fois, il y a Vénus. Oui. Qu'on voit en c'est journée, à l'aube et au crépuscule, qui peut briller très fort même. C'est très beau d'ailleurs, mais si on est un peu fatigué, si on, je sais pas, on peut halluciner, on peut voir un reflet, et du coup on peut s'imaginer beaucoup de choses.
La lune aussi. La lune aussi.
Oui.
C'est
qu'on voit en journée. Oui,
qu'on voit en journée, ou qu'on voit des fois juste au lever, au coucher de la lune, qu'il y a un peu de nuages, ça cache un peu une partie, ça laisse qu'une forme visible. Petite partie, des fois triangulaire. Enfin, mm-hmm. ouais, beaucoup de comment dire, d'investigations à propos de phénomènes inexpliqués, reportés, quoi, arrive à la conclusion que c'était Vénus ou la Lune.
Ouais. Ah ouais.
Une okay. grande partie qui arrive là-dessus.
Donc voilà. Et moi, ouais, j'ai noté un témoignage troublant. Donc je vais vous faire un peu la lecture. Donc le 29 septembre 1988. Un garagiste circulant sur l'A1 entre Paris et Lille voit d'un coup devant lui une énorme boule rouge traverser la chaussée à une dizaine de mètres devant lui. Cette boule lance des reflets lumineux intenses et est enveloppée de fumée. Le garagiste hallucine un peu, s'arrête plus loin sur la route et prévient les gendarmes, troublé par cette vision qu'il vient d'avoir. Le préfet est alerté par les gendarmes. Et le préfet décide de neutraliser l'autoroute sur quelques kilomètres autour de la vision du garagiste. Le garagiste et sa famille sont conduits à l'hôpital le plus proche pour subir des examens, pour voir s'ils ne sont pas fous, etc. La sécurité civile et les militaires arrivent avec des compteurs GGR. Donc les compteurs GGR, c'est pour vérifier le taux de radiation, s'il y a un truc nucléaire qui traîne. Et donc, oui, effectivement, ils viennent avec des compteurs GGR parce qu'ils s'attendent à la chute d'un satellite russe, Cosmos 1900, donc ça c'est le nom du satellite, qui est équipé d'un générateur électronucléaire. Donc c'est très sérieux, ça, il y avait eu des consignes très claires, donc le préfet a fait ce qu'il fallait. Et le CNES est contacté, donc le CNES c'est le Centre National d'Études Spatiales français, qui précise que non, Cosmos 1900, il est au-dessus de l'océan Indien, donc c'est pas ça. Donc, troublés, les militaires s'approchent doucement. Ils regardent, ils voient quoi ? Une sphère de 1,50 m de diamètre, recouverte de petits miroirs. Mais pas de fumée, pas de radioactivité. Donc, bon, il n'y a rien de dangereux.
Donc, ils trouvent un débris quand même. Ils trouvent quelque chose.
Ils trouvent quelque chose.
Ils trouvent un objet.
Ouais. Et en fait, c'était une sphère destinée au spectacle de Jean-Michel Jarre, qui était tombé du camion.
Boule à facette.
Ah ouais. Ah ouais. Donc ça m'a bien fait délirer quand même dans l'estriche. Mais voilà, comme quoi.
Ouais, c'est marrant. Mais après, je trouve ça étonnant que juste sur, tu vois, les dires d'un gars comme
oui,
ça qui
comme
fait la route, ils en arrivent à déployer les militaires, les compteurs GGR, le préfet. C'est quand même rare ça, parce que, enfin, si moi, je m'imagine en train d'aller voir un gendarme là, et lui dire, ah, je viens de voir un ovni et tout. Enfin, à part me dire, ouais, c'est bien circulé. Ou si je l'embête trop, me faire un contrôle d'identité. Je vois pas trop. Enfin, j'imagine pas qu'il va déclencher le plan hors sec.
Ouais. Il s'attendait à la chute d'un satellite.
Ouais,
et
c'est peut-être ça.
Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est drôle.
Donc Jean-Michel Jarre, ok.
Ouais.
bravo.
C'est drôle, je trouve. Et donc après, sur Internet, si on y va, il y a beaucoup de sites qui recensent les témoignages comme ça. Et même très localement, hein, vous pouvez aller fouiller et trouver des sur Dix, sur Luc en Diwa, il y a des témoignages de gens qui ont vu des choses, etc. Voilà, c'est marrant.
Des fois, c'est bien. Moi, j'avais vu une fois un phénomène un peu étrange, une sorte de nuage assez compacte, alors que le ciel était complètement dégagé, traverser le ciel
d'ouest
en est. C'était lumineux, c'était tout ça, fin de journée. J'ai cherché justement sur ces sites de témoignages. Ça n'avait rien donné dans les 2-3 jours après. Et c'est un mois après que j'ai vu un article disant qu'en fait c'était un nuage de suite au décollage d'une fusée.
Dégazage.
Du coup, avant que la fusée ait une trajectoire un peu latérale, quoi, ça a emmené un nuage qui s'est mis en orbite. En quelque sorte, quoi.
Souvent les décollages de fusées qui soit à l'aube, au crépuscule, encore plus, on voit des trucs très bizarres. Ça m'est déjà arrivé aussi. Et du coup, j'en arrive à John E. Mack, qui est un psychiatre Harvard, je crois, qui lui s'est spécialisé dans les gens qui pensent avoir été enlevé par des extraterrestres. Et lui, il les fait parler sous hypnose. C'est son truc. Et donc, ce mec, John E. Mack, il va passer sa vie à faire ça, à récupérer des témoignages qui sont extrêmement troublants parce que très précis, très... qui sont difficilement démontables, en fait. Même ce docteur-là, ce psychiatre qui fait ça de manière hyper scientifique, que personne n'a réussi à le démonter. Et donc, il a écrit un bouquin que Fred a lu.
On a écrit plusieurs, ouais. Mais effectivement, moi, de ce que j'ai lu sur le sujet, alors je suis loin d'avoir tout lu, mais c'est effectivement le livre que j'ai trouvé vraiment, vraiment le plus intéressant et qui pose le plus de questions. Parce que de fait, on a affaire à quelqu'un qui est un psychiatre universitaire américain reconnu.
Qui a été attaqué, mais qui
travaille vraiment dans le système, qui a une démarche très transparente, donc qui est validée par ses collègues. Voilà, on n'a pas affaire à un hulu-berlu qui est dans son coin, on a affaire vraiment à quelqu'un de sérieux. Ouais. Et là où c'est intéressant, en fait, c'est que en fait, les gens qu'il reçoit, les gens au départ se disent pas « j'ai été élevé par un extraterrestre », en fait. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça commence qu'il commence à soigner un certain type de pathologie et en fait, sous hypnose, les gens commencent à raconter des trucs, mais dont ils n'ont aucune conscience. Ils ne sont pas venus le voir en disant « j'ai été enlevé par un extraterrestre ».
Ah, ok.
Et sous hypnose, ils commencent à raconter effectivement des enlèvements. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. On pourrait faire une revue du livre, il faudrait que je m'y replonge un peu. Mais ce qui est vraiment troublant, en fait, c'est de voir la concordance des témoignages. C'est ça qui est vraiment, vraiment, qui pose question, c'est qu'en fait, on se retrouve avec des centaines.
Ouais, c'est énorme. Mais lui, il a passé sa vie à faire ça.
Lui, il fait que ça. Ouais. Des centaines de témoignages, en fait, et qui racontent, alors sous des aspects un peu différents, mais grosso modo, la même chose, la même logique, la même démarche, même visuellement, c'est très ressemblant, etc. Et donc, voilà, on a affaire à quelqu'un, comme je dis, qui fait réellement un travail sérieux, universitaire reconnu, qui présente ça. Et lui, en plus, il cherche à convaincre personne. Quoi.
Non, il dit juste, moi, je me pose des questions. Il étudie un phénomène particulier. Quoi.
Donc voilà, il n'est pas là pour balancer des certitudes. Mais en tout cas, il expose son travail. Tout ça est documenté, tout ça est précis, tout ça est bien fait. Et donc, on ne peut que se questionner derrière. Il me semble que dans un des premiers épisodes aussi, on avait déjà un peu parlé de ce livre et des extraterrestres et des différentes possibilités. Parce qu'en fait, dans les extraterrestres, il y a ces idées, soit ils viennent de très loin, et donc ils ont une technologie, mais ils sont quand même dans le monde physique, on va dire, dans notre espace-temps. Soit il y a d'autres idées où ils vibreraient à un niveau différent, où ils viendraient comme pas d'univers parallèle, mais en tout cas d'une dimension différente, en fait. Alors ça fait ésotérique comme ça, mais par exemple, Johnny Mack, ce psychiatre, il disait qu'il avait discuté avec des moines bouddhistes tibétains ou des choses comme ça, pour eux, ce qu'ils racontaient, c'était juste normal, en fait. Pour eux, dans leur méditation, dans tout ça, dans les voyages qu'ils peuvent faire, pour eux, c'était oui, effectivement, c'est vrai. Et mais pour eux, ils ne venaient pas de loin, ils venaient dans l'univers physique, ils venaient de dimensions plus subtiles, de choses comme ça. Et il y a quand même toujours derrière, en tout cas dans le travail que présente Mac, l'idée en fait que ces extraterrestres sont là, enfin, on le soucie en fait de quelque part de guider l'humanité et de l'éveiller vers quelque chose, vers une plus grande conscience. Et en particulier, ils seraient très, quand même très perturbés par, bah, par toute la destruction écologique et par tout ça, en fait, le fait de qu'on déséquilibre en fait les écosystèmes sur Terre, ça leur poserait problème. Bon, alors là, on rentre vraiment dans complètement une autre discussion, hein, qu'on pourra avoir un jour ou approfondir si ça nous intéresse. Donc là, on cherche à convaincre personne, mais en tout cas, il y a des... C'est vrai qu'on ne peut pas mettre tout ce truc extraterrestre à la poubelle comme
bien
ça,
sûr,
sans y regarder
ouais,
de plus près. Ce serait pas honnête intellectuellement, en fait. Il y a réellement des choses qui posent question. Après, à chacun d'y voir un peu ce qu'il veut, quoi.
Bien sûr, il y a beaucoup d'organismes d'État qui ont été créés pour étudier le phénomène, avec beaucoup de témoignages, et notamment maintenant avec les smartphones, il y a énormément de vidéos. Donc il y a encore plus de témoignages, quoi. En France, c'est le GEPAN qui étudie ça. Et aussi, j'ai vu, il y a un service militaire qui étudie ça, mais qui est secret défense.
Ah, en France.
Ouais. Okay. Ouais, ouais. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas, ils étudient ça. Et dernièrement, je voulais juste finir là-dessus, il y a un objet interstellaire qui s'appelle... Ça s'apparenterait à un astéroïde ou une comète, on ne sait pas trop, mais dans le genre, qui s'appelle Oumuamua, qui est venu nous rendre visite, et on pense que c'est un objet qui vient d'un autre système stellaire, qui vient de très loin. Et ouais. Ça, c'est un peu la première fois qu'on voit ça, parce qu'il avait une vitesse extrêmement élevée, et ça...
La forme de son orbite.
Voilà, la forme de son orbite était très, très particulière, et on pense que ça vient d'un autre système stellaire. Et là, il y a Abraham Loeb, c'est un astrophysicien, quand même, qui est directeur du département d'astro de Harvard de 2011 à 2020. C'est pas n'importe qui non plus. Qui, dernièrement, a certifié que c'était un OVNI, que c'était pas possible autrement, que c'est quelque chose qui est venu nous rendre visite. Alors voilà.
Mais ça,
tout ça pour finir, c'est vraiment les OVNIs, tout ça, ça... On pourra jamais l'expliquer, mais ce sera toujours là et ça viendra alimenter des rumeurs, etc. Et peut-être c'est vrai, et on ne sait pas en fait. Comme tu dis, c'est intellectuellement, on est obligé de s'y intéresser. Et de...
Bah, c'est aussi, je me souviens là qu'on avait fait l'émission avec les enfants et tout. Enfin, il y a quand même cet argument qui est un peu imparable, qui est de dire, vu la quantité de planètes qu'il y a, ne serait-ce que dans notre galaxie, mais dans l'univers. On a du mal à imaginer en fait que l'homme est la seule forme de vie. Voilà, on a du mal à l'imaginer. Donc forcément, la probabilité aurait plutôt tendance à jouer en la faveur du fait qu'il y ait d'autres formes de vie dans l'espace. Donc qu'elles soient technologiques ou pas,
est-ce qu'elles veulent se déplacer ?
Encore une autre affaire. Ouais. Une amibe, c'est une forme de vie. Quoi. Mais bon. Donc il y a quand même tout ça, et donc forcément il y a un truc inexpliqué. Enfin, moi je trouve que ça fait aussi forcément, ça vient chercher un peu dans nos rêves, dans nos fantasmes, dans nos peurs. Quand on regarde le ciel, ça nous inspire tout ça, et on le voyait vraiment sur les enfants, quoi. Ouais. À la fois ça les émerveille, à la fois ça leur fait peur. L'extraterrestre, c'est un peu pareil, quoi. Enfin, c'est un peu E.T. ou Alien, quoi. Oui. Voilà, c'est le prédateur, le truc de l'espace qui arrive et tu peux rien faire, genre t'es mort. Soit c'est E.T., l'espèce de hippie stellaire qui est là, qui est une force d'amour. Bon voilà, après on peut y mettre ce qu'on veut, mais on y projette surtout beaucoup de choses.
Ah ouais, ouais, c'est la peur de l'inconnu, inexplicable. Ouais. On se rapproche de Dieu aussi un peu.
Ok. Voilà. Et ben merci Pierrick pour cette petite évasion.
Avec plaisir, ouais, j'avais envie d'aller loin.
En tout cas, si vous avez un témoignage, enfin quelque chose, un signalement à faire,
gardez-le pour vous.
Non, et appelez le GEPAN, parce que c'est presque un service public, quoi.
Oui.
Ils sont disponibles, ils sont là pour ça, pour recueillir les informations. Ça existe depuis 40 ans maintenant, un peu plus même. Et qu'est-ce que j'allais dire ? On a aussi en France le réseau Fripon, qui est un réseau de caméras tournées vers le ciel sur tout le territoire, qui enregistre, je ne sais pas s'il tourne H24 ou si c'est une sorte de détecteur de mouvement, et pas forcément enregistré s'il voit quelque chose. Mais du coup, voilà, le GEPAN est en lien, ils peuvent interroger facilement l'armée de l'air, l'aviation civile, tout ça, et dans l'immense majorité des cas, ils pourront vous apporter une réponse sur ce que vous avez vu. Je crois que sur les centaines, sur les milliers même, de je vois là sur Wikipédia qu'ils reçoivent environ 300 signalements par an, donc presque un par jour, depuis 40 ans. Il n'y a que deux cas qui leur posent encore problème. Tout le reste, ils ont pu le résoudre.
Ah oui, seulement.
Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a aussi des lieux qui sont prisés par les amateurs d'OVNI, quoi. Par exemple, le Bougarache.
Le
mont Bougarache dans les Pyrénées, où il y a aussi le plateau de Vence au-dessus de Nice. C'est des lieux où les amateurs d'OVNI se réunissent parce qu'apparemment, il y aurait plus d'activité là qu'ailleurs, etc. Ouais, c'est vraiment toute une galaxie.
C'est Raël aussi.
Mais Raël, j'ai pensé à Raël quand tu me parlais de ton garagiste, parce que l'histoire de Raël, ça commence comme ça. Il était journaliste sportif, il couvrait je ne sais plus quelle course cycliste en Corse, il me semble, un truc dans le genre. Ouais. Il était dans sa voiture et d'un coup, bon, il raconte, hein, on n'était pas là pour le voir, mais que d'un coup, c'est là qu'il a été contacté par les Elohim, etc. Et après, il a fait tout son délire. Enfin bon, après, Raël, c'est une secte, hein, quand même, il faut être clair. C'est quand même quelqu'un aussi qui, finalement, je ne sais pas comment, a réussi à se faire financer une espèce de laboratoire là, dans un désert, sur une île, je ne sais pas où, qui est en fait une espèce de lieu de zone de non-droit international où il fait de la recherche quand même sur le clonage. Financé par je sais pas qui. Bah, c'est quand même, ouais, après moi, assez, Raël, j'avoue, je prends un peu mes distances avec ce type de personnage. Mais il arrivait quand même à la télé dans les années 90 en costume presque un peu Bogdanov, là, avec les petites épaulettes, un peu Star Trek, et il racontait tout son truc.
Bon. Ouais, je suis tombé
dessus. Je suis allé sur une planète dans cette constellation à 10 années de lumière, et en fait, si tu regardes par là, à 10 années de lumière, il n'y a rien. Mais bon.
Non, lui, pour le coup, j'ai l'impression que c'était quand même pas très sérieux tout ça, quoi.
Mais ça lui a permis de se payer des belles voitures pour faire des courses de voitures. Parce qu'il est fan de. C'est un pilote.
Et non, il a bien fait son pas affaire. Mal. Mais c'est un autre sujet. Oui.
Et pour finir, est-ce que vous avez, vous, vu des choses surprenantes ? Rémi, tu parlais de ce dégazage de fusée.
Dégazage. Non, on va parler des étoiles filantes.
Si, moi, pareil, j'ai vu un soir, j'ai vu un. Je pense que c'était une fusée aussi qui s'est. Il y a eu des témoignages concordants dans le Dauphiné d'ailleurs, qui avaient vu ça. Et apparemment, c'est une fusée qui paraît que quand elle sépare des étages, ça éjecte des gaz et ça fait des espèces de poches bizarres. Voilà. Parce qu'en plus, ils envoient tellement de fusées maintenant que je pense que ça se voit très, très, très loin. Donc.
Puis ça va s'accélérer là avec toute la couverture 5G. Là ils ont c'est reparti, quoi. Ils ont lancé 10 000 encore cette année. Ça n'arrête plus, quoi.
Non. Toi, Fred, t'as jamais rien vu ?
Bah non. Non, de cet ordre-là, non.
Mais en fait, il y a un phénomène qui est assez intéressant, je trouve, c'est que souvent les gens qui en ont vu plusieurs, en fait. Il y a une grande majorité de gens qui n'ont jamais rien vu. Ou alors des trucs où ils se disent, bon, ça doit être un truc que je n'ai pas compris, mais voilà, rien de farfelu, enfin de surnaturel en tout cas. Et par contre, les tenants un peu de la théorie OVNI, souvent ils vont se dire, la première fois que j'en ai vu, parce qu'il y a toujours plusieurs fois, parce que peut-être une fois ils ont vu un truc qu'ils n'ont pas compris, puis après ils vont essayer de voir, presque se persuader qu'ils ont vu pour corroborer, pour s'assurer que leur théorie est bonne en fait. Il y a ce phénomène qui est observable.
Oui, on
vient. C'est rare des gens qui en ont vu qu'une fois et qui sont sûrs d'avoir vu un ovni, mais qu'une fois.
Bah, c'est dur d'être sûr d'avoir vu un ovni. Enfin, moi, je trouve ça. T'es sûr que t'as vu
Ouais, puis maintenant, avec les drones et tout, des objets qu'on voit dans le ciel, il y en a quand même.
Il y a un type de phénomène aussi courant qui est signalé. Je parlais de Vénus et la Lune. Et j'en ai fait les frais un jour où j'observais avec mon télescope et j'ai vu une lumière, ça aurait pu s'apparenter à l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Donc une lumière assez forte qui se déplace en ligne droite. Et sauf que je trouvais qu'elle se déplaçait vite, elle avait une teinte qui n'était pas aussi pâle que l'ISS d'habitude.
Il y avait des flashs ?
Non, non.
Parce que j'ai déjà vu, moi, des...
Non, c'était une lumière stable.
Ouais.
Et en fait, elle est passée au bout d'un moment devant Justin. Donc là, je me suis dit, bon, c'est quand même très bas, du coup. Et c'était voilà, entre moi et la montagne de Justin. Et donc, comme j'avais mon télescope, j'ai réussi à le choper. Mais alors, comme ça bougeait, c'est pas facile à suivre. Mais c'était ce que je pensais. Vous savez, c'est les lampions chinois qu'on allume pour les mariages ou les anniversaires.
Chinoise,
ouais. Tu les lâches comme ça s'envole. Une sorte de petite montgolfière. Là.
Et
ça, en fait, c'est à la base de beaucoup de signalements aussi, parce qu'on en envoie par grappe, des fois, tu en envoies 4, 5 ou plus. Elles prennent le même courant. Donc, ça va faire des formes. Par exemple, ça fait un triangle qui avance ensemble, comme ça. Puis ça arrive dans un courant d'air, ça part direct dans une autre direction, parce que c'est très léger. Ça, c'est vrai, c'est à la base de beaucoup de signalements.
Ouais, c'est vrai que je me suis déjà posé la question en voyant ça.
Et
après coup, on se dit, ah oui, petit lampion.
J'avais eu des indices aussi, puisque j'avais entendu des coups de klaxon l'après-midi de mariage. Et mais voilà.
Ok, et ben on va en rester là pour cette semaine. On espère que nos élucubrations vous auront intéressé et nourriront les vôtres. Et on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.